Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav
Shimon Gober.
Bonne écoute et bon limoud.
Bonjour à toutes et à tous, Bechem Hashem Naseh Venatzliach. Voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet d'une importance première parce que je pense que tout le monde est concerné. Même si tout le monde ne veut pas l'avouer, mais tout le monde est concerné, et si c'est pas au jour le jour, c'est au moins un minimum une fois par semaine, d'accord? Et ce sujet-là, il y en a une obligation d'aborder comme il faut, parce que le destin de notre vie en dépend, clairement. De quoi je parle? Tout simplement de la notion de la jalousie, d'accord? Tout le monde est jaloux, c'est comme ça, c'est une nature, on le verra un peu plus loin. C'est une nature, mais pas tout le monde le reconnaît. Ça, c'est un problème. Parce que la jalousie, c'est une réalité, mais beaucoup de gens se voilent la face. Par exemple, il y a des gens, ils vont être invités dans une maison de luxe, villa, grande classe. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont être invités? Ils vont manger le repas, etc. Merci beaucoup. Quand ils vont repartir, ils vont dire quoi? Ils vont dire, franchement, pour avoir une maison comme ça et se retrouver avec la cuisine au milieu du salon, franchement, je trouve ça, ils auraient dû réfléchir, ils auraient dû mieux. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu donnes ton commentaire sur leur maison? Parce qu'en fait, t'es jaloux. Mais en fait, tu te l'avoues pas. Parce que si t'étais pas jaloux, tu leur dirais pas, oh, Hachem, tu vois ces gens-là, ils nous ouvrent leurs portes, et ils ont des moyens, et ils en font partager les autres, kol hakavod lahem. Non, pourquoi tu vas chercher le défaut de la cuisine au milieu du salon? Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie là-dedans. Clairement, il y a de la jalousie. Et beaucoup de gens même le cachent derrière de la morale. Ils vont être invités dans un mariage grande classe, vraiment un mariage qui coûte des centaines de milliers de shekels. Ils vont être invités dans un mariage comme ça. Et puis, quand ils vont sortir du mariage, ils vont dire, franchement, je comprends pas comment c'est possible de mettre autant d'argent dans un mariage pour une soirée. Il ferait mieux de donner l'argent au khatan à la kala plutôt que d'en mettre plein la vue. Mais t'en sais rien, toi. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Et ils auraient mieux fait de... Pourquoi tu donnes des leçons de morale? En fait, c'est de la jalousie. Parce que t'en sais rien. Peut-être qu'ils ont donné trois fois plus au khatan et à la kala. T'en sais rien. Et peut-être que ce mariage-là, ça représente énormément pour eux. Parce que cet enfant-là, qui marie aujourd'hui, c'est un enfant qu'ils ont peut-être attendu pendant plusieurs années. Tu n'en sais rien. T'as pas de recul, toi, pour pouvoir juger. Mais pourquoi tu donnes ton jugement? Parce que t'es jaloux. Mais beaucoup de gens ne sont pas capables de se l'avouer, ça. Parce que tout le monde est jaloux, mais personne ne le reconnaît. Enfin, pas personne, mais beaucoup de gens ont du mal à le reconnaître. Et c'est pour ça que c'est tellement important de savoir aborder ce sujet-là comme il faut, parce qu'il faut savoir, il faut se préparer à ça, que plus on va avancer dans le temps, plus la tendance va être que ça va s'empirer. Les gens vont devenir de plus en plus jaloux, de plus en plus envieux. C'est comme ça, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la société tend vers la dépression, tend vers la tristesse, tend vers le fait que maintenant, pourquoi vivre? Le taux de suicide explose, le taux de consommation d'antidépresseurs encore plus. C'est-à-dire, donc qui dit malheureux dit envieux. Parce que c'était pas possible que toi maintenant tu dis pourquoi j'ai une vie pourrie et lui maintenant lui il est heureux et elle est épanouie et pourquoi pas moi? D'accord? Donc qui dit malheureux dit envieux, c'est logique. Mais en plus, ce qui rajoute de l'essence sur le feu, c'est tout simplement que maintenant, on est dans la génération du m'as-tu vu. C'est-à-dire, les gens, ils se montrent. Et alors, ils font paraître qu'ils sont riches, ils font paraître qu'ils sont forts, ils font paraître qu'ils sont puissants, alors qu'ils ont rien. Donc, en fait, ils attirent la jalousie sur eux, alors qu'ils ont rien. Genre, ils montrent qu'il a une Patek Philippe, alors qu'il a, pas du tout, il a acheté en Chine, à 20 euros. Mais en fait, il fait paraître qu'il l'a. Mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est m'as-tu vu, t'as vu un peu. Et maintenant, lui, il offre une fausse Rolex à sa femme. D'accord? Parce que sa femme, elle l'a saoulée. Elle veut absolument une Rolex. Donc, elle dit, regarde, c'est pareil, c'est la même chose que la vraie. Maintenant, la copine, elle voit ça, elle dit, t'as vu un peu? Non, mais attends, t'as vu un peu? Lui, c'est un mensch. Lui, t'as vu un peu, il a offert une Rolex à sa femme. Et toi, t'as fait des années. Et t'as les moyens, et truc. Alors que c'est même pas vrai. C'est même pas une vraie Rolex. Mais donc du coup, la génération va tendre à être de plus en plus jaloux, de plus en plus envieux et de plus en plus d'ainara. Alors il faut savoir une chose qui est très importante de savoir. La jalousie, c'est pas un défaut en soi. La jalousie n'est pas un défaut. La jalousie est une nature. C'est une nature. Akadosh Baruch Hu nous a créé avec cette nature-là. On voit déjà un parashat Bereshit. Un parashat Bereshit, c'est un Rashi absolument incroyable. Rashi, il fait le compte-rendu un petit peu de la création. Il dit, quand on analyse, on se rend compte qu'en fait, quoi? Le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé des éléments qui serviront pour le ciel et pour la terre. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il va créer des éléments pour le ciel. Le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il va faire apparaître la terre. Le quatrième jour, Akadosh Baruch Hu, va faire les lumières et les astres du ciel. Le cinquième jour, Akadosh Baruch Hu, va faire apparaître les animaux aquatiques, donc tout ce qui est sur terre. Et le sixième jour, bah là, on a un problème. Parce que le premier jour, il y en avait pour les deux, pour le ciel et la terre. Deuxième jour, pour le ciel. Troisième jour, pour la terre. Donc, on se retrouve avec un déséquilibre. Donc, le sixième jour, qui c'est qui va être, qui c'est qui va recevoir? Ça va créer de la jalousie. Akadosh Baruch Hu, pas de jaloux. Pas de jaloux. Vous inquiétez pas. Il y en a pour le ciel et pour la terre. Hachem a créé l'homme. Que l'homme, il a été créé à partir de la terre. Mais sa neshama vient du ciel. Donc, pas de jaloux. On a rééquilibré les choses. Là, quand on aborde ce genre d'enseignement, c'est important de rappeler la notion de ce que nous dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé ça, une notion ou une mida, un trait de caractère, une force dans la nature, ça veut dire que c'est pas un compromis de société ou un défaut dû à la société. Non. C'est pas la jalousie. Ça veut dire que si Hachem l'a mis, l'a introduit dans la nature, ça veut dire que chez nous-mêmes, c'est naturel. C'est naturel. On est naturellement jaloux. On voit chez les enfants. Un enfant, depuis le plus jeune âge, tu le prends, tu lui dis, regarde, appelle-moi ta sœur, s'il te plaît. Tiens, je te donne un bonbon. Ou tu donnes une sucette à la sœur, mais à lui, tu lui donnes rien. Tu connais un enfant, toi, qui va commencer à dire, ah oui, sûrement que ma sœur a dû faire quelque chose d'extraordinaire que je n'ai pas fait. Bon, peut-être la prochaine fois, je mériterai. Pas du tout. La plus belle, il va dire, et moi, pourquoi j'ai pas moi? Et pourquoi j'ai pas reçu de bonbon? Ah, mais c'est marrant! Et il va se mettre à pleurer. Vous regardez la plupart des embrouilles frères et sœurs. Mais la plupart des embrouilles des enfants entre les frères et les sœurs, c'est de la jalousie. Ouais, lui, il a reçu, moi, j'ai pas reçu. Pourquoi lui, il a un nouveau crayon et moi, j'ai pas un nouveau crayon? Et pourquoi lui, il a un nouveau manteau et moi, j'ai pas un nouveau manteau? Et pourquoi t'as acheté une nouvelle chaussure pour lui? Et pourquoi maintenant, lui, il peut se coucher plus tôt que moi? Et pourquoi maintenant, lui, C'est-à-dire, c'est sans arrêt. Sans arrêt de la jalousie, c'est naturel. Les enfants, ils sont nature, d'accord? C'est clairement, ils font pas de semblant, eux. Donc clairement, et on voit que, durant notre histoire, la jalousie a changé la face du monde. Clairement, ne serait-ce qu'on voit la création du monde. Adam, Arishon, Caïn, il voit que Evel, son corban a été accepté, son sacrifice a été accepté. D'un coup, il dit, ah non, mais c'est pas normal! Et pourquoi moi non? Hein? Pourquoi moi non? Pourquoi toi oui, moi non? Et ben, tu sais quoi? Tac! Il va tuer son frère! C'est-à-dire qu'on vient de commencer l'histoire, là. On vient de démarrer, les mecs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Caïn qui tue Evel. Caïn qui tue son frère par jalousie. Maintenant, naissance du âme Israël. C'est quoi? Esav et Yaakov. Esav qui naît en premier, Yaakov qui naît en deuxième. Esav qui vend son droit d'aînesse à Yaakov. Yaakov, du coup, qui mérite de prendre les brachot. Esav qui arrive, dit quoi? Attends, il m'a pris les brachot, là. Mais c'est pas normal. Mais c'est quoi ce truc? Mais non! Il va se mettre à crier, il va se mettre à pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre des cris, des pleurs de Esav, de jalousie. De jalousie de quelque chose que lui-même a méprisé. Mais cette jalousie-là, elle va être viscérale chez lui. C'est-à-dire, ça va être même 20 ans plus tard, même plus que plus de 30 ans après, il va aller rattraper son frère. Il attend qu'il sorte de chez Lavan pour aller lui faire la peau. De cette jalousie-là, de ce qu'il a pu prendre. C'est incroyable. Pareil, après Yaakov, il arrive en Eretz Israël. Les frères de Yosef, jaloux de Yosef, sont jaloux de la tunique, etc. Donc, du coup, ça va engendrer que Yosef va être condamné à mort, et Yosef va être jeté en Égypte, etc., etc. C'est-à-dire, et à l'heure actuelle, on a toujours vécu ça dans l'histoire. C'est-à-dire, la conquête de l'espace avec les États-Unis, l'Amérique, la Russie et les États-Unis. Si maintenant la Russie se lance, alors nous, tu crois, on va aller sur la Lune? Ouais, ils sont partis, ils ont lancé dans l'espace, alors nous sur la Lune. Mais c'est, pourquoi? Parce que c'est de la jalousie tout ça. Et si j'avais maintenant la face du monde a changé dû à cet élément-là, dû à cette mida, ce trait de caractère qui est la jalousie, alors à plus forte raison que dans notre propre vie, elle a un rôle qui est incroyable. Et encore une fois, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Qui prennent des décisions non pas parce que maintenant ils le voulaient, mais parce que maintenant ils sont jaloux. L'autre il va partir en vacances à Monaco, ou l'autre il va partir en vacances à Miami, et ben nous aussi on va y aller, voilà. Et même si tu vas t'endetter, tu vas y aller parce que lui il a été. Tu vas t'acheter une montre, tu vas te payer une fortune. Pourquoi? Parce que l'autre, il a, et parce que ça fait bien. Et comme lui, il est classe, moi, pourquoi je ne le serais pas? Mais on se retrouve dans des choix de vie. Pour vous donner une notion, c'est lorsque Yitzhak, Abraham lui annonce que maintenant il va être il doit faire le sacrifice d'Yitzhak. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en chemin. Le Satan l'attaque. Comme ça, il dit le Midrash. Midrash incroyable. Le Satan attaque Yitzhak. Il lui dit, mais arrête! Mais ton père, il a craqué! Mais il est trop vieux! Tu vois pas qu'il délire? Mais c'est n'importe quoi! Franchement, lui, il s'est toujours battu contre les sacrifices humains. Maintenant, il veut sacrifier toi! Et Yitzhak, il dit, non, il se bat contre son Yitzhak. Il se dit, non, je t'écouterai pas. Mon père, il sait très bien ce qu'il fait. Mon père, c'est un tzaddik. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, il surenchérit. Il dit, mais ta mère, Sarah, tu crois franchement qu'elle a mérité ça? La pauvre! Depuis le temps qu'elle t'attend, depuis le temps qu'elle attendait ta naissance, maintenant, qu'est-ce que tu vas lui rendre? C'est qui boudem, ça? C'est respect de sa mère, ça? Tu vas te sacrifier? Mais tu vois pas que ta mère, elle va être triste? Elle va pleurer à cause de toi? Et lui, il dit, non, je suis sûr, c'est ce qu'il faut faire. Il se bat contre son Satan. Et là, le Satan sort l'argument ultime, dit le Midrash. Écoutez bien. Le dernier argument, c'est the argument. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Il va lui dire comme ça. Tu sais, regarde, tu veux pas m'écouter par rapport à ton père? Tu veux pas m'écouter par rapport à ta mère? Eh bien, écoute bien ce que je vais te dire. Si toi, tu vas mourir, alors sache que tout celui qui va hériter de tes affaires, c'est ton frère Ishmael. Il va récupérer tes habits. Il va récupérer ta pochette de tefillin avec marqué Yud. Ouais, Yitzhak. Eh bien, c'est marqué Ishmael aussi. Donc, il va récupérer ça. Et tous les bons gâteaux, les bons cookies de Sarah. Eh ben, ce sera que pour lui maintenant. Maintenant, tu regardes ce midrash, tu te dis, mais attends, mais j'ai pas compris. Mais il a craqué le Satan, ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça peut être un argument pour Yitzhak? Le Satan, il sait très très bien ce qu'il fait. Le Satan, il savait que son dernière arme pour faire craquer Yitzhak, pour ne pas qu'il fasse la Akeda, le sacrifice, c'était de jouer sur sa jalousie. Jouer sur sa jalousie. Vous savez que par Parashat Shoftim, la Torah nous en parle aussi. La Torah nous dit que le Kohen, il va passer dans le camp et il va dire tout celui qui a peur de partir en guerre, qu'il ne parte pas en guerre. D'accord? Il y a des critères pour être soldat dans l'armée. Tout celui qui en a peur de partir en guerre, qu'il ne parte pas en guerre. Tout celui qui maintenant a érigé une nouvelle maison cette année, et qui n'a pas encore eu le temps de l'inaugurer, qui retourne chez lui de peur qu'il parte en guerre et que maintenant quelqu'un d'autre lui prenne sa maison. Si quelqu'un vient de se marier dans la première année, qu'il rentre chez lui de peur qu'il meure en guerre et que un autre mari se marie avec sa femme. Et si jamais maintenant quelqu'un il a planté un nouveau vignoble et qu'il n'a pas encore eu le temps d'en prendre les vendanges, tout simplement qui retourne chez lui de peur qu'il meure en guerre et quelqu'un d'autre va prendre son vignoble. Demandez aux commentateurs, pourquoi la Torah a besoin de nous rajouter ce petit détail-là? Que a priori, on fait pas attention à ça. Le Kohen, il aurait pu très bien dire, celui qui vient de se marier, qui ne parte pas en guerre, celui qui vient de construire sa maison, qui ne parte pas en guerre, celui qui a planté son vignoble, qui ne parte pas en guerre, point! Ça nous aurait très bien, on aurait très bien compris le principe. Tu viens de faire ça, tu ne peux pas partir en guerre. Non! La Torah rajoute, écoutez bien. Celui qui vient de se marier, qu'il ne parte pas en guerre de peur qu'il meure en guerre et quelqu'un d'autre prenne sa femme. Pourquoi rajouter ça? Celui qui vient de construire sa maison de peur qu'il meure en guerre et que du coup quelqu'un d'autre va prendre sa maison. Pourquoi la Torah elle rajoute ça? Vous savez pourquoi la Torah elle rajoute ça? Parce que la Torah, elle connaît la nature humaine. Et il y a des hommes qui pourraient dire à leur femme, ma femme, on vient de se marier, mais tu sais, je suis dévoué pour l'âme Israël. Je suis un homme de guerre et je vais défendre mon peuple. Donc même si on vient de se marier, ne m'en veux pas, je dois partir en guerre. Là-dessus, la Torah, elle lui dit, attends, baba, juste, je te rappelle, si tu pars en guerre, il y aura un autre qui va se marier avec ta femme. Ah, ça, non. Ah, non, ça, je suis pas d'accord. Je reste à la maison pour ça. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, même si une personne était capable d'être sadique, de partir en guerre, de quelqu'un qui n'avait pas peur d'être un sadique gamour, la Torah lui dit, attends, juste te rappelle, c'est que si jamais tu veux faire le beau gosse, celui qui part en guerre, malgré le fait qu'il a construit sa maison, qu'il vient de se marier, etc., là, je te rappelle quand même que si jamais tu meurs, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Ah, ça, pas question. Pourquoi? Parce que la Torah, elle connaît la force de jalousie de la personne. Elle connaît qu'une personne est capable de faire des choses incroyables. Mais si jamais maintenant, ça va créer de la jalousie, non, non, non. À ça, non. Jusque-là, non. Parce qu'on doit savoir une chose. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette notion qu'est la jalousie, c'est à la base pour nous booster dans notre vie. C'est une nécessité. Akadosh Baruch Hu nous a créé jaloux parce que c'est une nécessité. C'est ça qui nous fait envie de quand on voit quelqu'un se réaliser, on voit quelqu'un, on voit un ami qui, Baruch Hashem, se réalise et qui ouvre sa société et qui a pas peur et que machin. Et toi, tu dis, purée, attends, moi, ça fait 10 ans que j'ai mes diplômes. J'ai rien osé envisager. Lui, il a même pas de diplôme. Il a commencé à ouvrir sa société, machin, truc. Attends, pourquoi moi, je ne me bougerais pas peut-être un petit peu? D'accord? Pourquoi? Parce que tu commences à te dire, non, mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui, oui, et moi, non? Donc, ça booste énormément. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu, ne serait-ce que les vaches, d'accord? Les vaches. Tu verras jamais une vache qui va être jalouse de Marguerite, sa copine. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a fait 7 litres de lait et qu'elle en fait que 5. Jamais! Tu vas jamais dire, attends, c'est pas normal, comment t'as fait? Non, elle en fait 7, moi j'en fais 5, c'est pas normal, c'est pas normal! Jamais! Les vaches, elles font leur vie, elles broutent dans la prairie, et puis maintenant elles viennent, elles sont traire leur lait, et puis elles font leur vie! Pourquoi il n'y a pas de jalousie chez eux? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à réaliser. Il n'y a rien à réaliser. Ils n'ont pas une mission à réaliser. Leur mission, ils la réalisent déjà depuis qu'ils sont nés. La Gemara nous dit Egel ben Yomo. Il s'appelle Shor déjà. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'un veau qui a un jour, la Torah, aux yeux de la Torah, il s'appelle déjà un taureau. Pourquoi? Parce que sa mission, il la réalise déjà. Il est là. Pourquoi? Pour donner de la viande, pour donner du lait. C'est sa mission. C'est sa mission sur Terre, il l'a déjà réalisé depuis le premier jour où il est né. Or, nous, les êtres humains, non, on a une mission à réaliser. Nous dit la Gemara dans Nida, on est des petits animaux. Comme ça, Pere Adam, Adam Yivaled. C'est-à-dire que, un homme, il naît comme ça, comme Shlomo HaMelech, un petit être sauvage, un petit chamor, un petit âne. Et maintenant, lui, il doit devenir tzaddik. On a une mission, on doit se réaliser, tout le monde le sait. Toute personne le ressent ça dans sa vie, que quand le moment où maintenant arrive l'adolescence, attends, je dois réaliser une mission dans ma vie, je dois me réaliser, je dois créer une parnassa, je dois créer une famille, je dois avoir des ambitions. Tout le monde le sait. Après maintenant quand il s'est réalisé par rapport à ses études, eh ben je dois réaliser ma famille, je dois réaliser mon couple, après mon rôle de père, après mon rôle de grand-père, après chacun sait que à chaque étape de la vie, il y a une nouvelle mission à réaliser. Tout le monde le sait. Donc, quand on voit l'autre se réaliser mieux que nous, ça nous booste. On dit, attends, mais moi, lui, il a réussi en un an à faire ce que moi, j'ai jamais réussi. Pourquoi? Donc, tu te remets en question, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, mais pourquoi lui, oui, pourquoi maintenant, etc., etc. Et ça fait la société. Comme ça me dit le Rambam. La société a une autre tête par la jalousie. Lui, t'as un promoteur, il a fait un projet, il a encaissé des millions. Bah super, tant mieux, il a encaissé des millions. Non, pourquoi il va refaire un autre projet, il va réattaquer? Pose-toi, c'est tout, pourquoi? Non, parce que l'autre, lui aussi, il a pris un autre projet. Et lui, il a construit un nouveau quartier. Et lui, alors moi aussi, je peux pas m'arrêter là où je me suis arrêté. Et c'est ça, ça le booste sans arrêt. Pourquoi Samsung, il sort un nouveau téléphone? Parce que Apple, ils en ont sorti un nouveau. Et pourquoi Apple, il sort un nouveau téléphone? Parce que Samsung, il en a sorti un nouveau. Et c'est comme ça. C'est la loi de la concurrence, c'est la loi de la jalousie, en réalité. C'est la loi de la jalousie. Et pourquoi, ne serait-ce que les patrons de Facebook, ils disent pourquoi maintenant, nous, on s'est tellement investi dans la relation de Facebook et que ça puisse exploser parce que on était admiratif de Google. Eux-mêmes le disent. Ils étaient admiratifs de ce que pouvait représenter Google, la réussite de Google. Ils se disent, mais nous aussi, on doit réaliser. Et c'est ça c'est de là qu'est sorti Facebook. Donc, si on voit que dans la société, dans la vie de tout un chacun, il y a quelqu'un qui doit perdre 10 kilos, ou perdre 20 kilos, ou 30 kilos, et qui voit l'autre qui les perd. Et ça fait 3 semaines qu'il l'a pas vu parce qu'il était en confinement. Et là, il le voit. Rac! Beau gosse, ventre plat, lui avant il avait la bedaine, beau gosse, ventre plat, et que lui il a encore la bedaine, et que l'autre il le voit, beau gosse, il dit attends, mais il a fait quoi? Attends, mais moi aussi alors je vais me mettre à courir, et il va se mettre à courir, et il va se mettre à commencer à faire du hit et des trucs et machin. Pourquoi? Parce que tout simplement il se dit, mais c'est pas possible, moi faut que je me bouge, si lui il a réalisé, pourquoi moi je le ferais pas? Pourquoi lui il peut être beau gosse, c'est pas moi? Donc on voit que ça booste de manière incroyable la société. Et on voit que c'est une grande nécessité pour évoluer dans la Torah. Dans la Torah, c'est une nécessité. Le Rav Yefen, il disait, il y a eu deux grands jaloux dans la Torah. Deux grands jaloux. Il y a eu Aaron et Korah. Aaron, il a été jaloux. De qui? Des princes de chaque tribu qui, lors de l'inauguration du Mishkan, le petit Beth Amikdash, le petit temple qu'on avait dans le désert, Ils ont ramené des offrandes et chacun, il a offert son cadeau chaque jour. Et là, c'est marqué que Aaron, il a été triste de ça. Il s'est dit, pourquoi moi, j'ai pas fait ça? Pourquoi moi, non? Pourquoi eux, ils ont pu le faire et moi, non? Et il en a vraiment été triste. Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Et Aaron, il va lui donner l'allumage de la menorah. Mais on voit que cette jalousie a été positive parce qu'elle a permis à Aaron de se réaliser, d'avoir envie de faire la volonté d'Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner ce cadeau-là en échange. Et d'un autre côté, t'as Korach. Que Korach, lui, il était jaloux de Aaron, jaloux de Litzafan, jaloux, et ça a fini où? Dans le trou. C'est-à-dire, ça peut être extrêmement positif si on le sait, si on sait le cadrer comme il le faut. La dernière fois qu'il y a eu le Sioum Hachas. Sioum Hachas, Sioum de tout le Talmud. Et que maintenant, Dafayomi, que maintenant on a recommencé le Talmud, Baruch Hashem. Il y a énormément de gens qui se sont lancés dans le Dafayomi. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont lancés? Parce qu'ils ont été jaloux des autres. Ils se sont dit, purée, mais te rends compte un peu, ils se sont réalisés, eux, ces businessmen américains, ils ont rempli un stade. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini le chasse. Ils ont dansé parce qu'ils ont fini le Talmud alors qu'ils gèrent des milliards, des millions. Et eux, ils ont le temps d'étudier leur Gemara. Alors pourquoi pas moi? Pourquoi moi je le ferai pas? Et ça les a boostés, ça leur a permis de se réaliser aussi. Les Chachamim nous disent, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie, comme ça nous dit la Gemara dans Baba Batra, Kinat Sofrim, la jalousie des sages, Tarbe Chochma, ça va te rajouter de la sagesse. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire, mais attends, mais lui, il a pris ça, et lui, il, même si maintenant, a priori, il n'a pas beaucoup de temps libre, et ben, il se trouve le temps pour pouvoir étudier, etc. Alors pourquoi pas moi, tac, 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 et toi-même, tu vas étudier, et tu vas avoir de la Chochma, et tu vas t'enrichir, et tu vas te construire. Rav Eliashiv, on lui a posé la question, on lui a dit, mais comment vous êtes devenu Rav Eliashiv? Comment vous êtes devenu Rav Eliashiv, le possécador, le grand de la génération? Il a dit, je suis devenu Rav Eliashiv à l'enterrement du Admon Mitchibin. Le Admon Mitchibin, c'est un homme extrêmement kadosh, extrêmement saint, extrêmement talmid racham, qui était un génie. Et donc le Rav Eliashiv, il a dit, moi je suis devenu Rav Eliashiv quand j'ai entendu les oraisons funèbres données au Admon Mitchibin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi je veux devenir un grand Torah. Et il est devenu comme ça. Il est devenu Rav Eliashiv. Donc on voit que c'est une grande nécessité et c'est très important. Mais le problème, et c'est là où je voudrais en venir, la problématique, c'est à partir du moment où maintenant, au lieu d'être signe d'avancer, ça sert en tant que booster pour toi, et que ça te propulse, et que ça te permette de te réaliser, c'est dès que maintenant ça te pourrit la vie. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. À partir du moment où ta jalousie te pourrit la vie, alors là, c'est une jalousie qui est négative. Et c'est une jalousie qui est même très dangereuse. Très, très dangereuse. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu apprécies la vie. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te réalises, mais il veut que tu sois bien. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois épanoui dans ce que tu fais. Il veut pas que quand tu réalises quelque chose, tu sois angoissé, stressé, très comme machin, et lui, il a fait ça, et moi, pourquoi j'ai pas fait, ta, ta, ta. Il y a pas de ça. La Torah, elle veut pas de ça. La Torah, elle veut que tu te réalises dans le bon sens. Elle veut que tu te réalises dans, elle veut que vraiment ça te booste, ton envie de voir tout le monde avancer, moi j'avance avec et j'ai envie de me construire. Mais quand ça te pourrit la vie et que t'en arrives à faire du lachonara, du motzi shemra, c'est les pires avérotes de la Torah à cause de ça. Il y a des gens, ils sont jaloux de la réussite du business de l'autre. Ils disent, bah, tu sais quoi, heureusement qu'il lui a donné l'argent lui, hein, parce qu'avec la femme qu'il a, heureusement il l'a consolé avec son argent. Mais comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux oser dire des mots pareils? Tu sais pourquoi tu parles comme ça? Parce que t'es jaloux. Parce que t'es profondément jaloux. Donc comme t'es jaloux, tu dis waouh, ouais, bah tu vois, heureusement qu'elle est une belle femme, hein, heureusement qu'il a beaucoup d'argent, hein, parce que sa femme est tellement moche. Mais comment tu parles? C'est du lachonara, c'est du motzi shemra, c'est la hister, c'est la jalousie, c'est ce qu'il y a de pire. Mais encore une fois, qu'est-ce qui t'alimente ça? C'est parce que tout simplement le fait que maintenant tu pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi il me prend? C'est pour ça que la Mishnah en Pirkei Avot, elle nous dit kina tahava et kavod, la jalousie, la recherche des plaisirs et la recherche de l'orgueil. Motim et Adam mina olam. Ça sort l'homme de ce monde. Parce que lui, au lieu d'être heureux, au lieu de regarder le bonheur qu'il a avec la femme qu'il a reçue, le bonheur qu'il a avec les enfants qu'Hachem lui a donné, il va chercher le bonheur ailleurs. Il va chercher le bonheur chez une autre femme. Il va chercher le bonheur dans une autre réalisation personnelle. Il va chercher le bonheur dans... Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que tu te pourris ton propre monde. Et tu te rends même pas compte qu'en fait, t'étais tellement riche. Combien il y a de gens qui avaient le bonheur dans leur vie et qui s'en sont jamais rendus compte. Et c'est lorsque maintenant ils ont un enfant sur le lit d'hôpital qu'ils prennent conscience de ce qu'ils avaient. Ils étaient dans leur business, dans le truc, dans la concurrence, dans la jalousie, dans le truc, dans le machin, dans la petitesse de leur vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont jamais fait attention à leurs enfants. Et quand l'enfant est à l'hôpital, à ce moment-là, ils s'arrêtent, ils disent « Je vais faire un break. Je vais faire un break. » Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, tout ce qu'ils étaient en train de réaliser, ça détruisait leur monde au lieu de le réaliser, au lieu de vivre un épanouissement. Combien de familles sont détruites ne serait-ce que par l'héritage? Ah ouais, ah mais lui, il est médecin, franchement, pourquoi il prend autant de part? Il sait très bien que nous, on est dans la galère. Comment ça te fait comme lui? Mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? C'est pourquoi il parle comme ça? Il parle comme ça parce qu'il est jaloux. Il est médecin, mais il a travaillé pour être médecin. Et il s'est cassé la tête. Et alors quoi? Parce que maintenant, lui, il s'est cassé la tête, qu'il a travaillé, que machin, donc du coup, il t'a volé quelque chose. Est-ce qu'il t'a volé? Ouais, non, mais c'est pas normal, il devrait quand même porter aux autres. Mais il t'a rien volé. Il t'a rien volé, c'est juste que maintenant, toi, tu voudrais avoir plus. Mais tu t'entends? Tu t'entends parler? Il y a des familles qui sont brisées à cause de ça. Il y a des familles brisées à cause de ça. Il y a des belles-mères jalouses de leurs belles-filles. Et qui vont détruire le couple de leur enfant. Ils vont dire, alors tu viens pas Shabbat, hein, tu vas rester avec ta femme est mieux que ta mère. Et ils vont détruire le couple. Par jalousie. Par jalousie. Il y a des gendres qui vont être jaloux de leur beau-père. Pourquoi? Parce que la mère, parce que leur femme, elle va leur dire, ah ouais, bah tu sais quoi, mon père, il a jamais réagi comme ça, franchement, t'es honteux. Ils vont, la femme elle-même, elle va mettre le mari jaloux de son beau-père. Mais comment ça arrive ça? Et la Mishnah dans Sota, elle nous dit, à la fin des temps, c'est ce qui se passera. La Gemara dans Sota, à la fin, la dernière Mishnah, elle dit, Oy ve ish anche beto. Les ennemis des gens seront les gens de leur propre famille, de leur propre maison. Ils vont être jaloux de la réussite de leurs enfants. Mais moi, je pensais pas que ça existait, un truc pareil. Il y a des parents qui sont jaloux de la réussite de leurs enfants. Mais c'est très grave. Comment tu peux te pourrir la vie comme ça? Comment tout a basculé parce que tu sens qu'ils t'ont pris quelque chose? Tu sens que, ouais, t'as vu, mais lui, pourquoi il part dans ces vacances-là? C'est pas normal. Lui, franchement, il faut rien de sa vie. Et maintenant, moi, je travaille, moi, je me fatigue. Et moi, pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas? Pourquoi lui, il se rachète une nouvelle bagnole et moi, non? Pourquoi lui, il a ses amis là et moi, je les ai pas? Lui, il s'éclate et trucs et elle peut sortir parce qu'elle a ses copines et ses trucs et moi, j'ai pas. Pourquoi eux, ils l'ont rajouté dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp et moi, ils m'ont pas rajouté. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils m'aiment pas? Ça veut dire que truc? Ça veut dire qu'en fait, moi, je dérange? Ça veut dire que... Et là, ça va partir dans un freestyle, dans un délire total. Sur quoi? Sur de la jalousie? Parce que tu crois qu'on t'a pris quelque chose. On t'a rien pris. Et la conséquence, elle est gravissime. La Gemara nous dit, la Gemara dans Sota, je crois que c'est une Gemara dans Sota, si je me trompe, j'ai oublié. La Gemara, elle nous dit, non seulement ce qu'ils ont, ils le perdent. Ce qu'ils ont, ils le perdent. Mais ce qu'ils voulaient avoir, ils l'ont pas. La Gemara, elle nous ramène une preuve du serpent. La Gemara nous ramène une preuve du serpent. Le serpent qui était le premier jaloux de la création. Quand il va voir que Adam a une femme extrêmement belle, qui est Chava, lui-même, il va vouloir avoir Chava. Et parce qu'il va vouloir avoir Chava, ben, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement Chava, il l'aura pas, mais ce qu'il avait, lui, la stature qu'il avait, qui se tenait debout, et qui parlait, contrairement à toutes les autres créatures, eh ben, tout ça, il va le perdre. Tout ça, il va le perdre. Donc, non seulement ce que tu voulais, tu l'auras pas, mais ce que tu l'avais, tu vas le perdre. Kohar, la même chose. Il était jaloux d'Elit Safan, il était jaloux de Aaron. Il est parti dans un délire que, soi-disant, roi Hakodesh, il a vu que ça lui revenait. Mais rien du tout, il veut finir au fond du trou. C'est-à-dire, ce que tu voulais, tu l'as pas eu. Et ce que t'avais comme stature, tu vaux plus rien maintenant. Tu vaux plus rien. Pourquoi ça? Pourquoi perdre ça? Et c'est pas seulement du vivant, c'est même après la mort. Même après la mort, ça continue. Vous savez, à Bnei Brak, lorsque le cimetière de Bnei Brak était devenu trop petit, donc ils ont commencé à ouvrir un cimetière à Petah Tikva. Même lorsque à Petah Tikva, ça commençait à devenir trop petit, alors ils ont ouvert à Be'er Yaakov. Maintenant, quand ils ont ouvert le cimetière de Be'er Yaakov, il n'y a pas eu de volontaire pour aller être enterré là-bas. D'accord? Il y a personne qui a dit, ouais, moi, je serai le premier. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils savaient pas qui allait être le premier, qui allait être prêt à être enterré à Be'er Yaakov. Et là, ils reçoivent la Chevra Kadisha. Elle reçoit un coup de téléphone des États-Unis. Il y a un juif américain qui appelle et qui dit, voilà, regardez, je voudrais absolument enterrer une femme, une jeune fille, une femme, une vieille dame, en Eretz Israël. Est-ce que vous avez un cimetière? Il dit, oui, bien sûr, on a le cimetière de Beria Yaakov, il vient d'ouvrir. Il dit, parce que je viens d'apprendre une histoire. C'est quoi l'histoire? Il raconte ce juif américain. Il dit, il y avait une jeune fille de 17 ans qui a fait une hémorragie cérébrale, chez Mirachem, chez l'Oalénou. Elle a fait une hémorragie cérébrale et cette hémorragie-là, elle a engendré qu'elle est devenue pashout un légume, quoi. Elle pouvait plus bouger. Ses parents sont occupés d'elle de son vivant, mais après sa mort, elle pouvait plus s'en occuper. Ils pouvaient plus s'en occuper parce qu'ils sont, partis. Donc, du coup, ils ont donné ça à quelqu'un qui était responsable de s'occuper d'elle. Mais même lui, il est niftar parce que cette jeune fille-là, elle a vécu 90 ans dans cet état-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, à la fin, elle a fini dans un centre, de bonne chrétienne, qui s'occupait d'elle. D'accord? Et elle a fini enterrée dans un cimetière chrétien. Et quand, il raconte, quand moi j'ai entendu cette histoire-là, je dis c'est pas possible, faut absolument la déterrer, faut aller l'enterrer en Eretz Israël. Donc la Chevra Kadisha, ils ont dit pas de problème, etc. Ok. Ils ont raconté que la Chevra Kadisha, quand ils sont venus déterrer le corps de cette dame-là, il était intact. Maintenant, ça faisait déjà 5 ans qu'elle était enterrée, cette dame. Et le corps était intact. Ils ont raconté cette histoire-là à Avraham Kanievski. Ils sont partis à Avraham, ils ont dit que Vodarav, le corps de cette fille-là, il était intact. Après 5 ans enterré. Comment c'est possible? Après, Mkanevski, il a dit, je comprends pas votre question. C'est une Gemara. Il a dit, c'est une Gemara. La Gemara, elle raconte que il y avait des ouvriers qui étaient en train de creuser, je sais pas, moi, une fosse dans le jardin de Rav Nachman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils sont en train de creuser, ils entendent, allô, 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 arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Alors, les ouvriers, ils entendent une voix qui sort du sol. Qui c'est qui parle? Il dit, c'est moi! C'est Rav Achai Bar Yoshaya. Rav Achai Bar Yoshaya, c'était lui qui était enterré là. Donc les ouvriers partent en courant, ils vont chercher Rav Nachman. Ils disent, Rav Nachman, il y a quelqu'un qui crie dans le sol. Venez voir que Vodarav. Donc là, Rav Nachman, il arrive. Il dit, ouais, c'est qui? Il dit, c'est Rav Nachman Bar Yoshaya. C'est Rav Achai Bar Yoshaya, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je suis mort. Il dit, mais alors, si tu parles, sors. Il dit, mais dis-moi, on t'a jamais... Tu sais pas que je pourrais sortir ce mois à Triat HaMedim, à la résurrection des morts? Tu sais pas ça? Il dit, ouais, mais d'accord, mais attends, alors Rav Nachman, il dit, mais alors, à ce moment-là, comment ça se fait que ton corps, il est pas devenu poussière? Il dit, mais on t'a rien appris, toi, quoi? C'est lui répond, on t'a rien appris? Tu sais pas que maintenant, le corps des tzadikim, ils redeviendront poussière juste avant le Triat HaMedim, la résurrection des morts, mais pour l'instant, je suis intact. Et arrêtez de creuser, là, vous allez arriver dans ma tombe. C'est-à-dire que, il dit Rav Yoshaya, et pourquoi, mais alors, Rav Nachman, il dit Rav Achai, il lui dit, mais comment ça se fait que t'es resté intact comme ça? Il dit, mais on t'a vraiment rien appris? Tu sais pas que maintenant c'est marqué, Shlomo HaMelech, il a dit, Reka Vatsamot Kina. Ce qui fait pourrir le corps, les os, dans la tombe, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Moi, j'ai pas été jaloux. Il dit, Avraham Kanievski, cette jeune fille-là, à l'âge de 17 ans, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a jamais été jalouse. Donc, comme elle n'a jamais été jalouse, son corps est resté intact. Son corps est resté intact. Il nous dit, le Maharal, comment se fait-il que maintenant, c'est quoi ça, Reka Vatsamot Kina? Parce que maintenant la personne était jalouse, alors du coup, dans la tombe, ses os, ils sont mangés? Oui. Parce que tu vois, durant toute ta vie, tu t'es senti manquant. Ah, t'avais pas ces vacances là, t'avais pas cette voiture, t'avais pas cette maison, t'avais pas cette femme, t'avais pas ces enfants là. Tu t'es senti manquant toute ta vie. Et ben, tu sais quoi, dans la tombe, tu vas être manquant. Parce que t'as eu cette sensation là, et ben, tu sais quoi, tes os, ils seront manquants. Mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est pour ça qu'on ne peut régler le problème de la jalousie qu'à travers la Emouna. Et ça, c'est très, très, très important, ce que je vous dis. On ne peut régler le problème de jalousie qu'à travers la Emouna. Akadosh Baruch Hu te donne exactement ce qu'il te faut quand il te faut. Ça, c'est la base de la Emouna. Et personne au monde ne pourra te prendre qui que ce soit. Parce que les gens jaloux, c'est des gens qui ont un très grand problème d'Emouna. Mais un sérieux problème. C'est-à-dire que si eux, tu leur demandes, à ton avis, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ils disent, attends, moi, Hachem, il aurait dû me demander avant. C'est-à-dire qu'attends, avant de me donner ce qu'il me donne, il aurait dû m'appeler. C'est-à-dire, attends, est-ce que tu veux plutôt ça ou plutôt ça? C'est-à-dire, pour eux, ils ont pas de problème, quoi. C'est-à-dire, pour eux, ils vont apprendre à Hachem ce qu'il aurait dû donner. Et ils vont pas être d'accord avec ce qu'Hachem a donné. C'est-à-dire, t'as pas plus grande kfira, c'est-à-dire le plus grand apicorsout que ça, hérésie que ça. C'est-à-dire, Hachem, regarde, ok, t'as fait ce que t'as fait, mais là, excuse-moi avec tout le respect, je pense que tu t'es sérieusement planté. Mais comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux penser ça? Pourquoi? Parce que la jalousie, elle peut te porter à penser comme ça. Elle peut t'amener à avoir ce type de réflexion. Mais personne te prend. Comprends bien, la Gemara dans Yoma, elle nous dit « En Adam nogia bemuchan nechavero kemelonima ». Personne au monde ne pourra te prendre ne serait-ce que le cheveu, ne serait-ce qu'un seul cheveu de ta chevelure. Personne ne pourra rien te prendre si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décrété. Arrête de croire que parce que lui il est venu et que lui il a fait de la pub et que lui il s'est installé là, alors c'est voilà, c'est lui qui m'a pris et c'est à cause de son Aïnara lui que j'ai perdu et que ça... Il n'y a pas. L'Aïnara n'aurait rien pu te faire si dans le ciel ça n'avait pas été décrété. Si dans le ciel ça n'avait pas été décrété, personne n'aurait rien pu te faire. Le Razoni, j'y ramène dans Emouna ou Bitachon. Il ramène que il connaissait quelqu'un qui était un imprimeur à Bnei Brak, qui il le considère comme un le vrai tzaddik, tzaddik amiti. Comme ça il dit le Razonich. Pourquoi? Parce que lui c'était un imprimeur et quand il entendait qu'il y avait des autres imprimeurs qui s'installaient, eh ben ils allaient les voir et il les conseillait. Il leur disait regarde, j'ai un bon fournisseur pour toi, c'est lui et je te demande de faire attention à telle personne parce que lui il va vouloir te fournir mais c'est pas très bonne qualité, etc. Il allait voir ses concurrents. Pourquoi? Parce qu'il savait ça. Personne ne peut rien me prendre. Personne ne peut prendre une part du marché si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décrété dans le ciel. Et une personne, elle peut vendre, je sais pas moi, des Tamagotchi et faire un carton. Et une personne, elle peut vendre de plus beaux produits et ne pas marcher. Pourquoi? Parce que ça dépend que d'une chose, c'est le Boré Olam qui décrète, c'est lui qui décrète. Et personne ne peut rien changer. Le Ran, il dit que où ça va? Il dit, vous savez que c'est marqué avant la naissance d'une personne. C'est marqué si la personne sera riche, si la personne sera pauvre, si avec qui cette personne-là se mariera, où cette personne-là achètera sa maison. Tout est déjà fixé avant la naissance. Tout est déjà fixé. Il dit le Ran jusqu'à la dot que va ramener la Kala. C'est-à-dire c'est même la Kala qui avec laquelle maintenant toi tu vas te marier, même elle, l'argent que va donner le beau-père, c'est déjà fixé. C'est déjà fixé. Ça sert à rien d'être jaloux. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait à mon beau-frère, et lui, mon beau-frère, il a aidé à acheter, moi que dalle, quand ça fait comme moi, il m'aide pas, alors que tout truc. Même ça sert à rien de le dire, il dit Loran. Parce que même ça a déjà été fixé avant même que tu sois né. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps et ton énergie à désirer des choses que ça ne te revient pas. Ça ne te revient pas, arrête. C'est pour ça que le Khatan et la Kala, quand ils sont sous la Choupa, quand on leur fait la Bracha et qu'on les bénit d'être heureux, mais qu'est-ce qu'on leur fait? Comment on peut leur souhaiter d'être heureux? Soyez heureux! Offrez-vous des cadeaux! Écoutez bien ce qu'on dit dans les Sheva Brachot. Sameach te samar, reim ahuvim, que samechecha yetzirecha began eden mikedem. Que vous soyez heureux, vous-même là, vous les mariés, comme Akadosh Baruch Hu a réjoui Adam Arishon et Chava began Eden mikedem, avant la faute. Pourquoi on les bénit de cette bracha là? Parce qu'avant la faute, il y avait que Adam et il y avait que Chava. Il y avait personne d'autre. Donc il y avait que son Khatan qui était Adam et il y avait que sa Kala qui était Chava et il y avait personne d'autre au monde. Donc ils étaient les plus heureux du monde parce qu'il y a personne d'autre à regarder. Et c'est ça la bracha qu'on fait au Khatan et la Kala. Vous voulez être heureux dans votre vie? Arrêtez de regarder la vie des autres. Arrêtez de le regarder. Ah, t'as vu le cadeau que lui, il a offert? Franchement, quel mari de folie.
Non, mais vraiment, je me sens malheureux. Je sais que j'aurais pu avoir mieux. Mais comment tu sais que tu peux avoir mieux? Il dit, parce que j'ai vu mon copain, il a mieux. Elle, sa femme, elle le laisse tranquille. Et elle, il lui fout la paix. Et alors que moi, elle me saoule. Elle me dit, mais où est-ce que t'es? Où est-ce qu'elle est? T'en sais rien, peut-être qu'elle lui fout la paix, mais parce que tout simplement, elle est dépressive. Donc comme elle est dépressive, donc maintenant elle cherche même pas à chercher du bonheur chez son mari, parce qu'elle est dépressive. Toi, t'aurais voulu une femme dépressive? Non, toi, elle a de la joie, alors t'en sais rien, voilà. Mais d'où tu sais? Comment toi, maintenant, tu peux te dire que eh, ça, c'est mieux pour moi? On bénit le Khatan HaKala, on dit, mais arrêtez de regarder les autres. Dire à Yaakov Kalinsky, tu n'auras jamais suffisamment de recul par rapport à ce que tu vois. Jamais. Jamais tu auras suffisamment de recul. T'en sais rien. Vous savez, c'est marqué. Le dixième commandement. C'est le dixième commandement, quand même. L'otahmod. Tu ne convoiteras pas. Tu ne seras pas jaloux. L'otahmod. Baitrecha.
la maison de ton prochain, Eshet Recha, la femme de ton prochain, Chamor Recha, l'âne de ton prochain, Eved Recha, son Eved, son esclave. Vechol Asher le Recha, finit le verset. Et tout ce qu'a ton prochain. Demande Rav Yaakov Galin si je comprends pas. Si tu me fais la liste, alors ou tu me fais la liste des choses sur lesquelles je dois pas convoiter, ou sinon tu me dis tout ce qu'il a ton prochain. Mais pourquoi faire les deux? Tu ne convoiteras pas sa maison, sa femme, son âne, son esclave et tout ce qu'il a. Bah alors, la Torah, on sait très bien qu'elle économise les mots au max. Donc la Torah, le 10e commandement quand même, il fallait le marquer sur les tables, d'accord? Donc Hachem, il aurait pu faire des économies de mots. Que quoi? Dire, tu ne convoiteras pas tout ce qu'a ton prochain. On aurait très bien compris que ça comprend la maison, la femme, l'esclave, l'âne. On a tout compris. On n'a pas besoin de... Il dirait bien comme Galinsky, pourquoi la Torah le dit ça? Écoutez, la chorma, la sagesse divine. Parce que quand j'ai beaucoup, tu dis, regarde, tu convoites la maison de ton prochain, tu convoites sa femme, tu convoites son âne, tu convoites son esclave. Attends, avant de convoiter tout ça, tu sais, si tu veux convoiter tout ça, prends tout avec. Parce que chacun a son dossier. Chacun a son dossier. C'est vrai, peut-être lui, il a acheté l'appartement et qu'il a une facilité pour acheter sa maison. Mais peut-être que son enfant, il est gravement malade. Et peut-être que lui, il s'est acheté une nouvelle voiture, mais son achat de la voiture, il est endetté jusqu'au cou et que toi, Baruch HaShem, t'es pas endetté. T'en sais rien. Tu connais pas les dossiers des gens. Tu ne connais pas la vie des gens. Kadosh Baruch Hu dit, ça sert à rien de convoiter ni sa maison, ni sa femme. Pourquoi? Parce que regarde, regarde tout ce qu'il a, lui. Regarde tout ce qu'il a et tu verras que tu seras plus jaloux. C'est pour ça que le 10e commandement, j'avais entendu ça sur Hidouche de Rav Berémy, Hidouche extraordinaire, il avait dit, c'est pour ça que le 10e commandement, c'est le dernier, l'otachmon, tu convoiteras pas. Et c'est lui qui ferme la boucle et qui rejoint le premier, Anochi Hashem Elokecha. Parce que si tu arrêtais d'être jaloux dans ta vie, si tu arrêtais d'être malheureux et de regarder ce qu'ils ont les autres et d'être envieux, tu veux arrêter ça? Regarde, direct, Anochi Hashem Elokecha. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. C'est moi qui t'ai donné ce que tu as. C'est moi qui t'ai permis d'avoir ce que tu as. Arrête de te plaindre. Arrête d'être envieux. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Si ça te pourrit ta vie, et ça t'empêche d'être épanoui, et ça t'empêche de te réaliser, et ça t'empêche de voir le bien de ce que tu as, alors c'est que c'est mauvais. Fuis, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Et ça, rabotaille, c'est la réparation qu'on doit avoir dans notre génération. C'est la mission qu'on a pour reconstruire le troisième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que qu'est-ce qui reconstruira le troisième Beth Amikdash? L'amour gratuit. Ve'avta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est la chose la plus difficile a priori. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle que nous disent Chachamim. En uman sone ela bnei umanuto. Une personne que tu détesteras le plus dans ta vie, ce sera les gens qui feront exactement la même chose que toi. Ton concurrent. Celui qui réussit mieux que toi, dans le même domaine que toi, lui, c'est ton pire ennemi. Pourquoi? Parce que lui te fait de l'ombre. Lui, tu ressens qu'il te prend. Lui, tu ressens qu'il te met de côté. Et ben, c'est lui qu'on te demande d'aimer. C'est pour ça que la Torah nous dit « Ve'avta le'reacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain qui est comme toi-même, qui est le même que toi, le même ton concurrent, celui qui lui se tape pour réaliser sa mission, réaliser son entreprise ou réaliser son épanouissement comme toi. Tu essayes de le faire, lui tu dois l'aimer. Lui tu dois l'aimer. Pourquoi? Parce que « Anochi Hashem », c'est moi Kadosh Baruch Hu. C'est moi, Hachem, qui suis derrière tout ça. C'est moi qui te demande de le faire. Parce que lui, même si tu as l'impression qu'il te prend, il te prend rien du tout. Il ne te prend rien. Et ça, c'est, tu verras que tu en sortiras de ça une grande bracha. Parce que Aaron à Cohen, lorsqu'il apprend que ce sera Moshe, son petit frère, qui va libérer le Ham Israël, alors que lui, Aaron, c'est lui qui gère tous les problèmes du Ham Israël. C'est lui qui gère toutes les difficultés. C'est lui le grand de la génération en Égypte. Et que Moshe, lui, ça fait déjà 40 ans qu'il est parti. Et que maintenant, pour l'instant, il sait même pas ce qu'il est devenu. Mais il apprend à Aaron, Beruach HaKodesh, par prophétie, que c'est son petit frère qui va venir. Vous croyez que ça lui a rien fait à Aaron? Aaron était extrêmement jaloux de ça. Mais Aaron va faire un travail colossal sur lui-même. Pourquoi? pour ne pas être jaloux de son frère Moshe. Et il va justement faire tellement de travail sur lui-même qu'il va finir par être heureux pour son frère. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire à Moshe. T'inquiète pas, Aaron n'est pas jaloux de toi. Veracha, il te verra. Vesamar Belibo, il sera heureux pour toi. Nous dit Rashi sur place. Pourquoi, du fait que Aaron était heureux pour son frère Moshe, il va mériter d'être le Kohen Gadol qui porte le pectoral du Kohen Gadol. Pourquoi? Par quel mérite? Nous dit Rav Abramski, il y a une règle dans la Torah qui est l'efum tsahara agra. Selon l'effort, il y a la récompense. Si Aaron a mérité d'être Kohen Gadol, c'est parce que c'était pas acquis pour lui de ne pas être jaloux de son frère. Il a fait un travail colossal pour ça. Mais il a fait ce travail. Il a fait ce travail de Emouna. Kakadosh Baruch Hu ne t'enlève rien. Au contraire, s'il fait réussir ton frère, tu verras, ce ne sera pas à ton dépens. Au contraire, même ton frère aura besoin de toi. Il a fait ce travail d'Emouna incroyable, il a fini le Kohen Gadol. Ishtabar Shemo La'ad. Ça, c'est la leçon pour nous dans notre vie. Arrête d'être jaloux des autres, arrête de convoiter les autres, sois heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Fais ce travail d'Emouna que personne ne te prendra rien. Akadosh Baruch Hu est prêt à tout te donner. Si toi-même tu comprends le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne, mais si tu fais que te plaindre et te dire que Akadosh Baruch Hu, comment tu veux qu'il te donne? Pourquoi tu voudrais qu'Hachem te donne? Mais Hachem te dit, bah, regarde, je t'ai donné! Et le peu que je t'ai donné, t'es malheureux déjà. Parce que l'autre, il a plus. Pourquoi tu veux que je te donne plus? Les gens, sans même se rendre compte, ils enlèvent eux-mêmes leur bracha. Ils enlèvent leur bracha. Parce qu'Hachem serait prêt à déverser sur de la bracha. Mais pourquoi? Pour avoir des grands jaloux. Mais il veut pas. Je te donne et tu te plains. Bien, bah, ça sert à quoi je te donne? Mais si je te donne et que tu bénis et tu remercies et tu dis à Kadosh Baruch Hu merci pour ce que tu m'as donné. Et même si maintenant moi, je pensais plus. Non, tu me donnes exactement. Je te remercie pour ça, Kadosh Baruch Hu. Tu dis, ah, tu me remercies déjà pour ça? Alors je te donnerai plus, Bezrat Hachem. Mida Kegenyed Mida. Même si toi, a priori, je te donne pas assez, mais tu ressens que je t'ai déjà donné trop. Alors, Bezrat Hashem, tu verras. Je vais vraiment te donner trop. Mida Kenegad Mida. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir une maîtrise totale de cette jalousie-là qui existe en nous. Qu'on puisse pas être épanoui, que ça nous serve de booster et non pas de destructeur. Et que Bezrat Hashem, le Mashiach puisse venir et qu'on puisse réaliser véritablement cette si belle mitzvah. Ve'av talerach hakamura. Tu aimeras ton prochain qui est comme toi-même, qui pourrait représenter pour toi de la jalousie. Mais que non, tu as fini par l'aimer et même le complimenter et même l'aider. Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse et que vous soyez les plus heureux du monde.
Torahbox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce de la vraie Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mizvotah, de garder une mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.